Nous vous proposons une nouvelle édition de Dicoté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Zawati à l'occasion de la parution de son roman Le Décret aux éditions L'Éditeur à part. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sandrine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une première ici. Alors, on va dire quelques mots pour vous présenter, pour présenter votre parcours. Vous avez vu le jour à Marseille, d'un père né à Alger et d'une mère née à Oran. Et vous avez suivi deux trajectoires, deux registres différents, mais qui se rejoignent par deux manières d'agir sur le monde. D'un côté, vous êtes un acteur majeur de la finance responsable, fondateur de Mirova, pionnier du lien entre finance et écologie, l'un de ceux qui ont œuvré à introduire des critères éthiques dans un univers longtemps structuré avant tout par des impératifs de performance économique. Mais de l'autre côté, votre autre casquette qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est celle de l'écrivain. Puisque depuis l'adolescence, l'écriture vous accompagne et vous puisez dans l'histoire pour romancer idées et interrogations contemporaines. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Les refus de Grigory Perelman aux éditions Pipa, qui sera, je crois, prochainement porté sur scène. Et votre actualité, qui nous vaut votre présence dans cette émission, c'est la parution de votre nouveau roman, Le Décret, on l'a dit, chez l'éditeur à part. Alors, le décret dont il est question, c'est le décret Crémieux, promulgué en octobre 1870, rapidement remis en cause dès 1871 et même menacé d'abrogation par le gouvernement tiers. Votre roman s'ouvre sur une ligne de fracture en 1871. D'abord, en incipit, la disparition au combat du chef kabyle Mohamed El-Mokrani qui plonge l'Algérie dans l'insurrection. Et puis la disparition d'un père, d'une crise cardiaque, figure respectée de la Casbah d'Alger, et la disparition également possible d'un décret, celui-là même qui, quelques mois plus tôt, avait fait basculer les Juifs d'Algérie dans la citoyenneté française. Trois histoires qui font cohabiter la grande et la petite, et dans cette agitation, un adolescent Élie est le fil conducteur et le narrateur de ce récit à la première personne. Élie est donc le fils de ce père disparu trop tôt et il se retrouve mandaté pour accompagner une délégation de rabbins d'Algérie envoyée en France pour sauver le décret Crémieux. Le décret donc, dans ce décret, vous ne racontez pas seulement la grande histoire, vous narrez des passages, passages d'un âge à l'autre, passages d'une ville familière vers un continent républicain inconnu et passage aussi pour les Juifs d'Algérie d'un monde ancien, souvent précaire, parfois humilié, vers une promesse d'égalité dont nul ne connaît encore le prix. J'étais un peu longue dans cette présentation, mais il le fallait bien.
Formidable.
Et je vous pose donc la première question qui s'impose. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce roman et puis à revenir à cette période historique et au décret Crémieux?
C'est un manque. C'est une espèce de trou que j'essaie de remplir, en fait. Et ce manque, c'est le lien avec mon passé, en fait, avec le passé familial. Alors, ce manque, pourquoi ? Parce que j'ai été élevé dans une famille, par des parents qui, effectivement, étaient nés en Algérie. Ils sont partis d'Algérie en 1962, se sont rencontrés à Marseille. Moi, je suis né à Marseille, comme vous l'avez dit. Et ils ont construit toute leur éducation de mon frère et moi sur une base très républicaine, j'allais dire, c'est-à-dire sur une envie féroce de s'intégrer à la société française et à la société métropolitaine qu'ils découvraient à ce moment-là. Et ils nous ont poussés à, non pas à faire disparaître ce qu'on était, hein, mais à réellement jouer le jeu de cette intégration, et notamment par les études et l'éducation. Et donc, le passé était présent, mais pas sous une forme, je dirais, pas du tout de nostalgie d'ailleurs, et pas sous une forme d'un lien qu'on essaye de cultiver. Et donc, j'ai ressenti le besoin d'aller rechercher ce lien-là. Et j'ai, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait remonter jusqu'à 1870, que ce n'était pas seulement retrouver le lien avant 62, pendant la guerre d'Algérie, etc. Mais que ce lien-là, il naissait de ce passage à la citoyenneté, et donc de mes aïeux. Et donc, j'ai retrouvé les traces de mes ancêtres dans la Casbah d'Alger depuis 1830. Et donc, voilà, c'est là où j'ai positionné mon histoire.
Alors, ce que vous dites là à l'instant suscite beaucoup de questions. La première, est-ce que Élie, c'est un peu vous ? Est-ce que ça pourrait être comme un double littéraire ?
Oui, on écrit toujours sur soi. Hein. Je crois que je mets beaucoup de moi dans mes personnages. J'ai écrit à la première personne. Alors, cela étant dit, j'ai écrit plusieurs livres à la première personne, dont une fois un personnage féminin. Donc, des fois, j'arrive quand même à faire un pas de côté. Mais là, Élie, oui, il a beaucoup de moi sur mes interrogations. Il s'interroge sur son identité, sur ce que c'est qu'aujourd'hui, ce que c'est qu'être juif, ce que c'est qu'être français, ce que c'est qu'être les deux à la fois. Comment on navigue dans une société. Et évidemment, ça fait écho à la situation que nous vivons aujourd'hui.
Alors, c'est la question aussi que je voulais vous poser, donc de l'identité, de la mémoire, peut-être une sorte d'hommage à vos origines, et puis une nécessité historique. Il y a quelques semaines, un événement était organisé au Palais Bourbon pour marquer le 155e anniversaire du décret Crémieux. Eh bien là, est-ce que le fait d'organiser cet événement qui est lié à la parution de votre livre, oui, c'était une sorte d'inquiétude civique, une nécessité historique ? Qu'est-ce que c'était ?
Moi, j'ai vraiment voulu organiser cet événement-là pour qu'on parle des Juifs en France. Paul Salmona, le directeur du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, a écrit plusieurs fois que l'histoire des Juifs en France était une espèce de trou noir dans l'histoire nationale, oui, c'est-à-dire que elle est là, elle est présente depuis très longtemps et pour autant, on en parle très, très peu.
Il parle de tâches aveugles dans le récit national.
Tâches aveugles dans le récit national, exactement. Oui. Ça, c'est les mots qu'il emploie. Et donc, du coup, je voulais qu'on prenne le temps et je pensais qu'à l'Assemblée nationale, c'était une bonne façon de le faire dans les ordres de la République, là où d'ailleurs ce décret a été remis en cause en 1871. Je crois qu'on était ravis de ces deux heures parce que, alors, d'une certaine façon, voilà, on a passé deux heures à parler de juifs en France, à l'Assemblée nationale, et à aucun moment on a évoqué le conflit à Gaza pendant ces deux heures. Non pas que je ne veuille pas en parler, mais je veux dire, c'est important aussi de remontrer qu'est-ce que c'est que les juifs en France, indépendamment de ce qu'on vit par ailleurs dans le contexte actuel.
Et c'est ça qui est primordial, parce qu'on parle souvent d'antisémitisme, de conflits israélo-palestiniens ou de nostalgie de pays quittés, mais l'histoire de France remonte au 1er siècle, et puis il y a l'Algérie. Alors on va essayer de faire des allers-retours entre votre biographie et ce que vous écrivez dans le livre, qui est un roman, et vous décrivez notamment l'arrivée de cette délégation à Marseille. Je vais vous lire. La ville millénaire s'étalait du vieux port phocéen jusqu'aux pentes rocheuses et broussailleuses de la Basse-Provence. Mon oncle me l'avait décrite comme le reflet d'Alger dans un miroir, son double, sa petite sœur de métropole. Il se trompait. Marseille et Alger n'avaient que l'apparence de la ressemblance. Ma ville natale épousait la terre, s'y enracinait, la modelait à son rythme. Elle s'accommodait du relief, c'était un labyrinthe, une fourmilière, une ville de terriens. On y ressentait le souffle chaud et la permanence du désert. Marseille, elle, donnait l'impression d'étouffer. Et là, on est donc dans votre ville de naissance, dans cette ville...
Qui, en l'occurrence, n'est pas Alger, mais Marseille.
Marseille. Et là, Alger, qui est comme une sorte d'exil condensé pour cette délégation qui arrive. Et finalement, c'est ce que beaucoup de familles aussi ont connu quand ces familles ont quitté l'Algérie. Est-ce que... Il y a un symbole dans tout ça, finalement, que le départ ou l'entrée dans la citoyenneté, comme quand on arrive à Paris, ou en France plutôt, ou par Marseille, eh ben, c'est jamais un confort, c'est toujours un petit peu compliqué.
C'est un exil.
Oui.
Il y a eu l'exil réel, effectivement, donc 62, l'exil de traversée de la mer, mais d'une certaine façon, le changement d'identité, c'est un exil. C'est une disparition, ou en tout cas une... Voilà, une atténuation de ce qu'on est, de toute l'histoire, de ce qu'étaient les Juifs d'Algérie, qui étaient très proches des communautés, notamment kabyles, depuis des siècles, et qui, en quelques décennies, changent très très fortement de comportement, de vie, en se rapprochant de la communauté française, en se rapprochant des colons. Et donc oui, c'est une forme d'exil intérieur qui se passe pour cette communauté.
Vous avez fait beaucoup de recherches avant l'écriture du roman ?
Oui, un petit peu, oui. Oui, j'ai lu évidemment les biographies de Crémieux, les écrits aussi de ces rabbins dont on parlera peut-être, ces rabbins, euh, ces rabbins alsaciens qui ont été envoyés par le consistoire en Algérie, et un certain nombre de ces écrits sont intéressants à lire.
Alors, je vous cite encore parce que dans vos propos, dans votre narration, dans votre écriture, eh bien, on sent beaucoup d'émotions qui cohabitent avec l'histoire. Et vous montrez combien le décret fut vécu comme une sortie d'Égypte moderne. Je vous lis. Comme les Hébreux furent libérés de l'esclavage en Égypte, les troupes françaises avaient délivré les Juifs d'une longue période de soumission aux Ottomans. Comme les Hébreux avaient erré 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise, les Juifs d'Algérie avaient traversé 40 années d'incertitude avant de recevoir enfin leur citoyenneté. Crémieux était leur Moïse.
Oui, et le symbole des 40 ans est extraordinaire quand même. Oui. Les Français arrivent en 1830. Et le décret Crémieux naturalise les Juifs d'Algérie en 1870. Il y a ces 40 années entre l'arrivée des Français et l'entrée dans la citoyenneté. Et ces 40 années sont un test, en fait, en réalité. Parce que pendant ces 40 années, les Juifs se rapprochent des Français. Et d'une certaine façon, c'est une récompense qu'ils obtiennent en 1870, comme l'entrée dans leur nouveau pays, leur nouveau monde. Et ils ont effectivement vécu l'arrivée des Français comme une libération, c'est une évidence, puisqu'ils vivaient dans l'Empire ottoman, donc en qualité de dhimmi, c'est-à-dire en qualité de sous-citoyens. Et d'emblée, ils ont vécu l'arrivée des Français comme une mise à égalité par rapport aux autres indigènes, donc aux indigènes musulmans. Et ensuite, le décret Crémieux va les faire passer, d'une certaine façon, si on peut appeler ça une hiérarchie, en tout cas c'était une hiérarchie citoyenne à l'époque, au-dessus. Puisqu'ils sont devenus citoyens alors que le reste des indigènes sont restés des sujets en fait, de la France.
Alors justement, pour ces indigènes d'Algérie, les musulmans, est-ce que le décret Crémieux n'a pas été vécu comme une sorte de trahison et qu'il n'est pas une blessure dans une sorte de liste d'imaginaire qui a véhiculé des haines entre musulmans et juifs ?
C'est certain. Alors... on a beaucoup dit, c'est pour ça que j'ouvre le livre avec la révolte de l'Al-Mokrani, que cette révolte en Kabylie était liée au décret Crémieux. En fait, c'est très peu probable. Je pense que les musulmans et les Kabyles avaient de très bonnes raisons de se révolter contre l'Empire français, indépendamment du décret Crémieux. En revanche, je crois que cette fracture, elle a existé par la suite vraiment dans le quotidien des gens, puisque c'était beaucoup de familles juives et musulmanes qui vivaient, qui étaient très très proches et qui progressivement se sont séparées. Le décret les a sans doute séparées encore plus. Après, je crois que surtout cette fracture, elle a été instrumentalisée ensuite beaucoup par le nouvel État algérien et encore plus aujourd'hui comme une raison d'oublier et de ne pas garder en mémoire l'histoire juive de l'Algérie. Ce qui est une grande tristesse, puisqu'il y a une histoire juive, évidemment, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Au Maroc, on voit bien que cette histoire juive, elle est vivante, quelquefois même célébrée. Et en Algérie, elle est totalement passée sous silence, voire même rejetée, en considérant qu'il y a eu une trahison et que les Juifs sont passés du côté des colons.
Pourquoi, un an après, une remise en question de ce décret ?
Alors, c'est une conjonction de différents éléments. Alors, des éléments qui sont internes à l'Algérie et puis des éléments qui sont très métropolitains. Les éléments internes à l'Algérie, c'est de l'antisémitisme, il faut le dire de façon assez simple, hein, c'est-à-dire des colons qui sont plutôt antisémites, qui ne voient vraiment pas d'un bon œil le fait que les Juifs se mettent au même niveau qu'eux. Ils ont des inquiétudes, y compris dans certains endroits, sur l'impact que ça peut avoir sur les élections. Et donc... ils veulent remettre en cause ce décret, ils ne l'ont jamais accepté, et donc ils trouvent tous les moyens pour essayer de le remettre en cause. Et notamment le nouveau gouverneur d'Algérie qui prend fait et cause pour cette abrogation. Et puis, il se trouve que c'est en conjonction, ça se passe au même moment qu'un mouvement au niveau métropolitain. Il faut voir à quel moment on est en 1871, donc la République est en train de naître, et le décret Crémieux a été signé un an avant, en 1870, à un moment qui était dans une espèce de no man's land juridique, puisqu'on n'était plus dans l'Empire, Napoléon III avait perdu à Sedan, et on n'était pas encore dans la République. Et donc Crémieux signe ce décret à Tours dans un moment un peu flou. Et donc un an plus tard, la nouvelle Assemblée nationale décide de revoir, de remettre en cause tout ce qui a été signé pendant cette période-là, en considérant que ce n'est pas quelque chose qui était suffisamment stable. Donc cette combinaison des deux éléments fait que, eh bien, y a une commission qui est en train de revoir tous ces actes-là et que le décret est donc fortement remis en cause et inquiété.
Donc une délégation se rend à Paris pour essayer de plaider la cause de ce décret. Et on apprend, et c'est des sources historiques fiables, que les rabbins d'Algérie qui représentent cette délégation eh bien, ne sont pas forcément des natifs d'Alger.
Ils ne sont pas des natifs d'Alger, pour la quasi-totalité d'entre eux, ce sont des Alsaciens. Ce sont des Alsaciens parce que le consistoire en fait, français, en fait, hein, de métropolitain, s'est très vite intéressé aux Juifs d'Algérie. Dès 1830, quand les Français arrivent en Algérie, il y a des premières visites du consistoire sur place. Et que découvrent ces Juifs français? Ils découvrent une communauté juive en Algérie, vivante, forte, mais très différente d'eux. Et donc, ils ne vont avoir comme objectif que de la faire se rapprocher progressivement de leur pratique métropolitaine, et donc française, et donc il est écrit dans certains écrits, hein, c'est assez dur hein, de rééduquer ces Juifs d'Algérie. Ils considèrent que leur pratique n'est pas au bon niveau, et donc ils vont leur envoyer des émissaires de plus en plus. Il va y avoir aussi une organisation consistoriale qui va se mettre en place grâce aux Français, enfin avec l'aide des militaires français, et très vite, ce sont des rabbins formés à Metz, dans l'école de Metz, donc des rabbins alsaciens, qui vont aller et devenir les grands rabbins d'Alger, de Constantine et d'Oran. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, quand Crémieux demande aux grands rabbins d'Algérie de venir plaider la cause des Juifs algériens, il se retrouve avec des gens dont il est en réalité très proche, lui-même n'étant pas alsacien, mais venant des Juifs du pape, mais enfin des Juifs français, des Juifs qu'il a croisés pendant toute sa carrière en France, au consistoire, à l'Alliance israélite universelle et ailleurs.
Et donc, il y a certains passages aussi qui sont joliment écrits et qui nous remettent en tête pourquoi Crémieux et les Israélites en métropole avaient tout intérêt à ce décret. Je vous lis encore une fois. « Éperdus de reconnaissance envers la patrie qui les avait élevés au rang de citoyens, ils voulaient lui rendre ses bienfaits. Ils proposèrent d'œuvrer à la civilisation de la société israélite algérienne en l'alignant sur la situation politique, sociale et culturelle de la métropole. » En fait, ils étaient gagnés par une certaine peur de revenir avant l'émancipation des Juifs de la Révolution.
C'est évident. Les Juifs français sont émancipés depuis 1791. Et comme d'ailleurs, on va le voir avec le décret Crémieux, tout ça, les Juifs se sentent toujours en fragilité, on le voit encore aujourd'hui. Et donc, en 1870, ils se sentent fragiles, les Juifs de France. Ils savent qu'ils ont acquis une citoyenneté et ils voient apparaître en face d'eux, dans des territoires maintenant occupés par les Français, des Juifs qui n'ont pas le même statut qu'eux. Et donc, ils voient ça comme un danger, clairement. Ils se disent effectivement que la meilleure façon de consolider leur statut, c'est très clairement d'intégrer les Juifs d'Algérie dans ce même statut.
Alors il y a la grande histoire, et on l'a dit, cette petite histoire, la lucarne d'Élie, avec la disparition de son père, le fait de passer de l'adolescence finalement à l'âge adulte, et puis ce regard qu'il porte aussi sur ses rabbins, qui n'est pas du tout le sien, celui d'un Juif natif d'Algérie.
Non, il a un regard un peu... Un peu humoristique d'ailleurs quelquefois, oui. sur ces rabbins qui progressivement au début il a une certaine déférence, il est choisi un peu par hasard, son père effectivement qui vient de mourir, et donc on cherche un secrétaire pour accompagner les rabbins, et il est là et on lui dit ben voilà, on va te prendre
et
toi.
Puis il fait pas la différence entre les trois, il essaye de trouver des petites caractéristiques physiques
il
pour
cherche
les dissocier.
Des caractéristiques, voilà, pour lui c'est trois rabbins un peu ouais. identiques, et puis il essaye de les différencier par quelques caractéristiques. Et puis progressivement, il va comprendre d'abord les dissensions qu'il peut avoir à l'intérieur du groupe des rabbins, leurs différentes positions. Et puis surtout, il va progressivement se rendre compte de l'écart qu'il y a entre eux et lui. Et du fait que, quelquefois, ces Juifs de France qui veulent obtenir la nationalité, la citoyenneté pour les Juifs d'Algérie, ne comprennent pas ce qu'apporte spécifiquement les Juifs d'Algérie. Et ça, c'est aussi ce que j'ai voulu faire avec ce livre. C'est de dire, finalement, derrière l'arbre Crémieux, il se cache une forêt qui sont les Juifs d'Algérie. Et souvent, quand on parle des Juifs d'Algérie, on parle de Crémieux et on ne parle pas de ce qu'il y avait avant, en fait. Il y a une histoire très longue. Il y a des histoires, il y a la reine, la Kahana, dont on parle souvent, il y a aussi évidemment des grands rabbins, le rabbin Tlemcen, il y a beaucoup d'histoires et de traditions, Et bon, évidemment, elles sont restées en partie, ces traditions, mais une partie a aussi disparu à travers cette assimilation et ce décret.
Et puis finalement, c'est tous les Juifs de France que vous décrivez, parce qu'il y a aussi les chocs culturels d'être hébergés dans des familles judéo-comtadines, par exemple. Et puis, encore une fois, hein, ce qui peut arriver à un jeune homme, des coups de foudre, mais il ne faut pas
absolument,
tout dire.
Absolument, pas tout dire.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Philippe Zawati, qui nous parle de son nouveau roman, Le Décret, publié chez l'éditeur Appart. L'histoire des Juifs d'Algérie est une histoire singulière. Votre livre le montre une nouvelle fois, avec ses particularités historiques qui ne sont pas forcément, même pas du tout celles des autres judéités ou judaïcités d'Afrique du Nord. Est-ce que vous pourriez dire que les Juifs d'Algérie sont des Juifs à part, ou que ce sont les plus républicains des Juifs séfarades, et que leur identité leur est propre ?
Très clairement, vous savez, quand j'ai fait quelques conférences sur ce livre, et la question qu'on me pose très souvent, c'est « Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le décret Crémieux ?» La façon la plus simple de répondre, c'est de dire on aurait été comme des Juifs tunisiens et comme des Juifs marocains. Clairement, oui, ça c'est une spécificité très, très, très forte.
Comment vous la définiriez ?
C'est une... C'est étonnant, ce sont une communauté qui est devenue française sans être en France. Qui conçoit la citoyenneté bien au-delà du territoire, d'une géographie. Donc c'est quelque chose, être français, c'est un concept pour les Juifs d'Algérie. Je pense que ça se différencie assez fortement des autres.
Il y a une particularité ces jours-ci. Nous célébrons les 120 ans de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. La laïcité aujourd'hui, c'est une sorte de champ de bataille idéologique. Est-ce que votre livre, votre roman, qui se lit vraiment très très facilement, n'est pas une sorte de plaidoyer pour un retour à la laïcité comme promesse et non comme arme ?
Bien sûr, bien sûr. C'est une démonstration que... qu'on peut embrasser cette idée de citoyenneté que ça pose plein de questions, parce qu'en fait, Élie se pose en permanence des questions, donc c'est pas simple. Je pense que ça montre la complexité du sujet, que c'est pas quelque chose d'évident, mais en même temps que c'est riche, voilà, que les questions qu'on se pose en se disant qu'est-ce qui peut nous rassembler et qu'est-ce qu'on peut garder comme spécificité, c'est quelque chose de très riche.
Je vais vous poser une nouvelle question liée à l'actualité. Le 7 octobre est un contexte très particulier, avec un regain d'antisémitisme en France, en Europe et même dans le monde entier. Est-ce que votre livre qui vient de paraître, donc vous faites des conférences, il y a eu un colloque, vous rencontrez des gens, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire la promotion d'un livre sur le décret Crémieux ?
Bon, c'est compliqué de faire la promotion d'un livre, comme vous savez, de façon générale. Non, je crois que... J'ai eu la chance, effectivement, d'organiser ça, et je voulais faire ce colloque à l'Assemblée nationale. Donc, et ça a été plutôt bien, bien accueilli, et j'ai eu la chance d'avoir des députés qui nous ont accueillis pour ce colloque. On est dans un contexte compliqué et difficile, ça c'est sûr. Je crois que... s'interroger sur ces questions-là et je crois s'exprimer. Enfin, pour moi, il me semble que c'est s'exprimer sur la judéité, sur ce qu'on est, sur notre histoire en France aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Il faut réussir à... c'est pas une façon de dépasser l'antisémitisme, parce que il est là et on s'y confronte malheureusement. Mais je crois que c'est important de rester soi-même. Voilà. Sinon...
Alors, je vais vous lire encore, parce qu'il y a beaucoup de phrases, hein, j'ai mis beaucoup de marque-pages. Donc, rien que la manière dont elles ont été écrites, eh bien, parlent. Je vous lis. « Mon maître me parlait souvent de ce paradoxe. Nous n'existions pas plus avant d'être nés que nous n'existerions après notre mort. Pourtant, les milliers d'années qui nous ont précédés ne nous angoissent pas, alors que les temps qui nous survivront nous obsèdent. C'est parce que le passé est contenu dans le présent, nous appelons cela l'histoire, nous la commentons, nous nous l'approprions, nous en faisons des poésies et des romans. Le futur est fait d'une autre étoffe. Non seulement nous n'en serons plus les acteurs, mais nous ignorons tout de l'intrigue qui s'y déroulera. Seul Moïse a eu le droit de poser son regard sur l'avenir jusqu'à la fin des temps. Le seul antidote à cette détresse, disait mon maître, c'était de s'assurer que notre passage donnerait des fruits. Est-ce que c'est pas ça la belle leçon qu'il faut tirer des événements qu'on traverse aujourd'hui un peu compliqués ?
Oh là, vous m'emmenez loin là. Non, oui, bien sûr. On ne sait pas de ce dont sera fait le futur.
Qui est peut-être une propriété du peuple juif quand on voit
mais,
ça. C'est
mais en revanche, on doit transmettre, on doit agir. Voilà, moi je suis toujours en faveur de l'action. Voilà, je pense qu'il faut être dans l'action. Et il faut faire ce qu'on pense devoir faire à un moment donné. Donc là, en l'occurrence, écrire, porter ce message, je crois que c'est très important aujourd'hui.
Alors vous dites, on est dans le concret et on y est bien. Celles et ceux qui liront votre livre, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils en ressortent comme impression ? En fait, quel était votre geste d'écrire ? Quand vous avez écrit ce livre, on l'a bien compris, c'est une sorte de réponse faite à votre passé, oui. Un hommage, en même temps une inscription dans l'histoire. Mais qu'est-ce que vous voudriez qu'il reste de ce livre ?
Moi, je voudrais qu'on comprenne effectivement que, d'abord, hein, cette histoire des Juifs d'Algérie, que ça a existé. Encore une fois, le fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est complètement effacée, cette trace, est quand même dure. Et donc, les seuls qui peuvent garder cette trace, ce sont bien les descendants des Juifs d'Algérie aujourd'hui. Or, quelquefois, ce que je trouve un peu dommage aussi dans les discussions, dans la communication de la communauté, y compris des Juifs d'Algérie en France, c'est que on regarde ce qui se passe en Israël, on regarde le conflit, on regarde aussi Israël comme potentiellement l'endroit où on pourrait aller un jour. Et du coup, on oublie aussi ce passé, enfin, je veux dire, des deux côtés, à la fois en Algérie et en France. Donc j'ai voulu essayer de remettre cette histoire au cœur et puis de montrer qu'on est fait d'identités multiples. Voilà, et je pense que si les gens, ceux qui vont lire ce livre, se retrouvent après avec une certaine introspection pour se demander qui je suis, c'est quoi mon identité, à quoi j'adhère, je pense que c'est ça qui est passionnant. Il se trouve que chez l'éditeur À Part, là, donc, qui est d'ailleurs un éditeur dont je suis proche, les dirigeants de l'éditeur À Part m'ont demandé de diriger une collection. Le décret sera le premier opus, le premier livre de cette collection. Cette collection va s'appeler Identité au pluriel. Et donc, nous allons éditer, je vais éditer d'autres récits, d'autres romans de personnes qui vont décrire ce qu'ils sont. Et très souvent, quand on décrit ce qu'on est, on comprend qu'on vient d'éléments multiples et qu'on a combiné, tressé en quelque sorte ces différentes identités entre elles. Voilà.
Alors, sous le nom de l'éditeur, justement, en couverture, il y a marqué « Déranger sans blesser ». C'est oui. La collection, qu'est-ce que c'est ça ?
Non, c'est le motto de l'éditeur.
D'accord.
Voilà. C'est un éditeur qui cherche à éditer des personnalités à part, qui cherche à déranger sans blesser.
Est-ce que vous êtes sur d'autres chantiers ? Vous êtes très occupé professionnellement. Est-ce que l'écriture vous obsède en ce moment ? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez ?
Toujours.
On fait toujours. Quoi après le décret ?
Oh, il y a plein de possibilités, Il y a par exemple, au moment du colloque, il se trouve qu'on a échangé avec Karima Diresh-Limani, qui est une historienne qui venait donner justement la vision des musulmans sur le décret. Et elle a raconté l'histoire de Prosper Messaoud, qui est ce dernier juif d'Oran. Voilà, ça c'est un très beau sujet de roman, potentiellement. Il y en a plein d'autres.
Bon, alors on va suivre tout ça. Pour conclure cette émission, il y a une question rituelle, mais néanmoins difficile. En une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive de lire votre livre et de l'offrir, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais qu'ils vont faire un voyage, avec un jeune homme. Et donc, c'est un livre, un voyage initiatique. Ils vont faire un voyage entre Alger et Paris. En passant par la Provence, en passant par Marseille, en passant par Avignon et Carpentras. Ils vont découvrir Paris en 1870 et puis ils vont faire un voyage de l'indigénat, d'une situation de communautés qui ont vécu pendant des siècles un peu en autarcie en Algérie, à la citoyenneté. Et donc ils vont traverser la mer Méditerranée deux fois, à la fois avec un bateau et puis à la fois un peu conceptuellement à travers ça. Et donc, en faisant ce voyage, ils vont découvrir comment ce jeune Élie traverse ces paysages et cette évolution.
Merci beaucoup, Philippe Zawati, d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité. La parution de ce livre, Le Décret, aux éditions L'Éditeur à part, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre qui, du singulier, touche l'universel et tout le monde peut s'y reconnaître sur les fractures identitaires que tous les Français ont rencontrées. C'est un livre qui est très bien écrit. C'est un vrai plaisir de lire certaines phrases comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, les fêtes de fin d'année sont là. N'hésitez pas, quand on ne sait pas quoi offrir, eh bien, offrez Le Décret. Merci, à très bientôt.
Merci, Sandrine.